Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Frères et sœurs, nous attendons la venue du Seigneur. Le prophète Isaïe nous le présente comme consolateur. Ce temps liturgique porte nos regards vers le retour du Messie consolateur à la fin des temps. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, nous enseigne l'apôtre Pierre, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans cette perspective, ce temps de l'Avent nous invite à envisager le face-à-face que notre propre mort rendra possible. Une rencontre qui donnera à voir, nous l'espérons, les prémices du monde nouveau. Mais l'Avent nous invite déjà à considérer ce que Jésus peut changer à notre vie pour nous consoler. À considérer ce qu'il peut opérer comme Messie consolateur, ici, maintenant, dans ta vie, dans ma vie. Car il vient, le Seigneur. Il vient dans chacune de nos existences. Dans un texte magnifique donné à méditer par la liturgie des heures, saint Anselme, ce moine bénédictin du XIe siècle, répand beaucoup d'espoir en décrivant par le menu la difficulté que nous avons à rencontrer le Seigneur dans le concret de nos vies, alors que pourtant il vient. Il dit nos difficultés, nos reproches presque au Seigneur. Bref, il parle comme nous pourrions parler, écoutez plutôt. Allons, courage, pauvre homme. Fuis un peu tes occupations, dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées. Rejette maintenant tes lourds soucis et laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton esprit, bannis-en tout sauf Dieu ou ce qui peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche. Mais, comme nous n'y parvenons pas, conscients de nos impatiences, de nos reproches adressés à Dieu parfois, saint Anselme, s'adressant à Dieu, continue. Si tu es partout, pourquoi ta présence m'est-elle invisible ? Certes, tu habites une lumière inaccessible, mais où est-elle cette lumière inaccessible? Comment accéder à une lumière inaccessible? Qui donc m'y conduira et m'y introduira pour que je t'y voie? Et puis, à quels indices, sous quels traits te chercher? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu. Je ne connais pas ton visage. Que peut faire, très haut Seigneur, que peut faire ton lointain exilé? Que peut faire ton serviteur tourmenté de ton amour et rejeté loin de ta face? Il aspire à te voir et ta face est trop éloignée de lui. Il désire t'aborder et ta demeure est inabordable. Il souhaite te trouver et il ne sait où tu es. Il ambitionne de te chercher et il ignore ton visage. Et saint Anselme, de se montrer finalement plus offensif envers Dieu, et toi, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, nous oublieras-tu? Combien de temps nous cacheras-tu ton visage? Quand nous regarderas-tu et nous exauceras-tu? Quand éclaireras-tu nos yeux et nous montreras-tu ta face? quand reviendras-tu à nous? Regarde-nous, Seigneur, exauce-nous, éclaire-nous, montre-toi à nous. Rends-nous ta présence pour notre bonheur, toi dont l'absence est pour nous un tel malheur. Aie pitié de nos laborieux efforts vers toi, nous qui ne pouvons rien sans toi. Mes amis, si j'ai cité en abondance cet entretien de saint Anselme sur l'existence de Dieu, c'est parce qu'il ne sert à rien de dire benoîtement « Viens, Seigneur Jésus, d'avant en avant », si nous éprouvons de la difficulté à vivre sa présence dans nos vies. Souvent, je vous ai dit, et je le redis encore, que pour être vrai, notre prière doit être louange au Seigneur quand nous avons envie de louer, demande au Seigneur quand nous éprouvons le besoin de demander, mais aussi crie vers le Seigneur quand nous avons envie de crier, quand nous pensons qu'il n'est pas là, quand nous pensons qu'il ne nous écoute pas, quand nous pensons qu'il ne nous aime pas. Comme le fait très concrètement saint Anselme, disons-lui nos pourquoi, disons-lui nos impatiences, nos incompréhensions, disons-lui notre désespérance. C'est à ce prix que viendra la consolation, sans que nous ayons à attendre la fin du monde, sans même que nous ayons à attendre notre mort. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et le prophète Isaïe continue, une voix proclame, « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur. Et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Le commencement de l'évangile de Marc que nous venons d'entendre met en évidence l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Pour signifier que Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert, Marc rappelle la parole d'Isaïe, et juste après écrit « Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. » Avec Jean-Baptiste retentit la voix annoncée par Isaïe, et cette voix en appelle à notre concours, à notre volonté. Oui, il vient le Messie consolateur, mais il ne consolera personne malgré elle, malgré lui. Et de la même manière que notre volonté doit, comme je viens de le dire, nous déterminer à lui dire nos pourquoi, nos impatiences, nos incompréhensions et nos désespérances, cette volonté doit nous engager sur le chemin de la conversion. Le messager envoyé en avant, qui nous crie de préparer les chemins du Seigneur, nous supplie d'élargir le chemin de nos vies, d'aérer, de dégager tout ce qui étrique le chemin de Jésus dans nos vies. Il est là qui se tient à la porte et qui frappe, mais si tout est encombré, obstrué, bouché, il ne forcera pas la porte, il ne s'engagera pas vers nous. À nous aussi, comme aux foules qui étaient baptisées par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés, Jean-Baptiste lance un appel à la conversion. Il relaie ce que nous entendons depuis plusieurs dimanches. Prêtez une attention soutenue aux petits en reconnaissant en eux le visage de Jésus. Veillez dans la prière, une prière vraie qui lui dise tout. Reprendre des forces dans une réconciliation sincère avec lui, au lieu de nous enfermer dans un fatalisme puéril et obtus, qui se prive à tout jamais de la grâce du pardon, au motif que d'abord nous retombons toujours dans les mêmes travers, et que donc nous disons toujours la même chose en confession, et puis que vraiment ce n'est pas très marrant d'aller raconter ses misères à un prêtre. S'il nous crie de préparer les chemins du Seigneur, Jean-Baptiste, le messager envoyé en avant, annonce la venue derrière lui de celui qui ne baptise pas avec de l'eau, mais qui baptise dans l'Esprit Saint. Pour la plupart d'entre nous, mes amis, nous avons reçu ce baptême dans l'Esprit Saint donné par Jésus. Depuis ce jour, la vie avec le Christ, cette vie nouvelle, éternelle, est installée en nous comme un ferment. Pourquoi alors est-il parfois si long, si laborieux, le chemin que le Seigneur a à parcourir pour venir réchauffer nos cœurs, les consoler? Si courte est la distance, si long pourtant est le chemin. Pourquoi sont-ils épais les buissons, les ronces, si grosses les pierres qui empêchent Jésus d'emprunter le chemin de notre cœur? Voulez-vous que nous mettions tous à profit ce temps de l'Avent pour nous poser ces questions? Se les poser, c'est déjà élaguer, éradiquer, dissoudre les obstacles. Écoutons Jésus qui quémande, qui, brûlant d'amour pour chacune, chacun d'entre nous, veut retrouver le chemin d'une amitié intime avec nous. Alors oui, en communion les uns avec les autres, élaguons, élargissons, arrachons les ronces, nos ronces. Amen.